Merci beaucoup. Merci Frédéric et merci Anne-Lorraine et merci aussi Anthony de m'avoir convié à cette célébration. Les textes de jeunesse sont, vous le savez, souvent de puissants révélateurs. Ils mettent en lumière les événements autour desquels se structure une pensée, mais ils révèlent aussi les débats et les interlocuteurs qui entrent en jeu. Et les lettres d'Allemagne de Raymond Aron, dont je vais vous parler maintenant, ne font pas exception à la règle. Alors, si on se rapporte aux mémoires que Aron publie, vous le savez, à l'automne 1983, quelques semaines avant sa mort, on voit que son jugement sur Emmanuel Mounier et plus encore sur la revue Esprit est un jugement assez critique. Il n'a d'ailleurs pas collaboré à la revue, sauf pour un article. Je vous lis juste un passage des mémoires. « Esprit méritait moins par ses valeurs que par sa manière. J'y trouvais une littérature, à mes yeux, typiquement idéologique. En ce sens qu'elle n'abordait pas les problèmes politiques dans un style tel que le lecteur y put discerner les solutions ou les choix recommandés. Les idées directrices, les variations sur les thèmes communautaires me rappelaient une littérature allemande parfois exploitée par les nationaux-socialistes. » Et il poursuit en disant que les déchirements de 1938 en apporteront la preuve. Donc vous voyez que c'est plutôt dans un rapport de distance que j'interrogerai cette année 1932 et le rapport de Aron à Esprit. Cela dit, je crois que cette année 1932 et la position d'Aron viennent jeter une lumière nouvelle sur une question qui traverse le débat intellectuel français jusqu'à aujourd'hui, à savoir, la politique doit-elle être morale ? Penchons-nous donc d'abord sur les lettres d'Allemagne, parues entre 1931 et 1933, une vingtaine de pages, tout au plus, dans la revue d'Alain, Libre Propos. Ce qui frappe le lecteur, c'est la précocité d'Aron, et je dirais la lucidité de son analyse. Et en ce sens, on pourrait dire, peut-être, c'est ce que j'ai découvert en préparant cet exposé, que 1932 est aussi une année philosophique, un tournant pour Aron. On se souvient du magnifique texte que Maurice Merleau-Ponty consacre à ses cohortes de jeunes normaliens de l'entre-deux-guerres discutant des mérites respectifs de la philosophie de Platon ou d'Aristote, pas très loin d'ici, autour du bassin des Ernestes. « Nous ne savions pas, écrit Merleau-Ponty, que c'était là la France des grandes vacances. » Mais il ajoute « Certains cependant savaient. » Et parmi ceux-ci, Aron, qui eut l'occasion, comme secrétaire de cette institution très singulière que fut le Centre de documentation sociale, de faire un séjour en Allemagne, de faire deux séjours en Allemagne, pardon, le premier en 1930 et le second en 1931-32 à Berlin, à l'Institut français. Et il est frappant de voir donc combien ces lettres d'Allemagne font écho aux deux séjours, et combien elles contiennent en fait en germe déjà toute la pensée de l'histoire, car on développera plus tard dans sa thèse, en 1938, Introduction à la philosophie de l'histoire. Ces lettres nous introduisent assurément, me semble-t-il, comme le dira Can Guillem lorsque l'École normale supérieure rendra un hommage à Aron après sa mort, à un nouveau chapitre de ce que Can Guillem appelle une philosophie française de l'histoire. La toute première lettre date du 27 avril 1931 et elle est déjà édifiante. Elle prend d'emblée ses distances à l'égard de philosophies qui, à l'instar de la philosophie hegélienne de l'histoire ou du marxisme, décrivent un système clos ou débouchent sur une téléologie de l'histoire. Aron ne consent pas à une révolution, fût-elle une révolution de l'esprit. Les arguments qu'il y avance viennent démentir toute systématique de l'histoire au profit de l'expression de ce qu'on pourrait appeler un réalisme historique pragmatique. La description de la vie politique allemande de 1931 lui fournit l'occasion de s'interroger sur les formes de la vie sociale et les aléas qui caractérisent celle-ci. Elle formule un premier diagnostic politique et philosophique à partir de situations concrètes auxquelles se trouvent confrontés les individus. Que valent nos volontés individuelles face aux déterminismes économiques ou sociaux ? Peut-on agir sur les forces sociales et comment mesurer finalement les chances de réussite, l'efficacité d'une telle action ? À quoi sert-il de vouloir dès lors que cette volonté échouerait à transformer le réel ? La première leçon à retenir est que c'est de la réalité et non des idéologies qui entendent la transformer qu'il nous faut partir. La seconde, c'est que face à l'urgence, il faut savoir choisir nos priorités. Ce que Aron résumera en conclusion d'une lettre ultérieure, je le cite, « Reprendre le travail à la base ou s'abandonner au destin, il faut choisir. » Tout est dit. Ainsi faut-il partir de l'analyse de notre condition historique pour penser l'histoire. Ceci suppose donc de prendre en compte le hasard, qui s'inscrit en faux contre la providence, de même que le raisonnable vient en quelque sorte démentir les prétentions de la raison sans renoncer toutefois à son exercice. Plus encore, ce qui frappe, c'est la manière dont Aron hiérarchise le social. Et il a déjà pris ses distances, en fait, à l'époque, à l'égard du Marx du Capital, en montrant que ce qui prévaut dans l'individu moderne n'est pas l'homo economicus. Tels sont les éléments, donc, que les lettres d'Allemagne vont s'efforcer d'articuler. Aron s'y livre à une minutieuse analyse des forces en présence, s'interrogeant sur les chances de la démocratie de se maintenir au pouvoir, relevant à d'autres moments l'erreur de jugement commise par exemple par les milieux d'affaires allemands dans l'appui apporté aux nazis, mais plus encore dans la possibilité finalement de disposer des masses. C'est intéressant parce que c'est un argument sur lequel reviendra Arendt, mais 20 ans plus tard. Le diagnostic d'Aron évolue. En février 1932, il évolue de mois en mois, hein, c'est intéressant. En février 1932, il pense encore que la police et la Reichswehr d'un côté, mais aussi les syndicats de gauche de l'autre, peuvent en quelque sorte maintenir l'ordre. Évidemment, le constat ne vaudra pas un an plus tard. De même, s'il affirme qu'il faut se garder de surestimer l'adversaire nazi à l'aube des élections de mars 1932, et il décrit l'aventurisme du mouvement, il tempère ce qu'on pourrait appeler un excès d'optimisme en rappelant la manière dont, justement, les nazis mobilisent sur fond de crise économique et d'inflation. La crise économique reprend ici ses droits et plus encore la politique interventionniste menée par un État prétendument libéral à travers notamment le sauvetage du secteur bancaire. Ce qui frappe au contraire, c'est plutôt vers les mois de la fin du printemps 1932, le ton très pessimiste de ces lettres. Et finalement, je vais passer, parce que sinon Olivier n'aura pas le temps de parler. Mais je vous renvoie aux lettres. Juste un point très frappant, c'est qu'on trouve des formules dans ces lettres qui annoncent déjà le Aron des années 50 et le Aron des années 1970. Je vous en lis juste une. « La paix, écrit-il, la paix se fera peut-être malgré tout. Nous voulons le croire et nous le croyons. Mais elle sera œuvre avant tout de politique réaliste. » Donc encore une fois, ces lettres, je crois, marquent la précocité d'Aron, et je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais une précocité également dans la prise en compte de la dimension internationale de la politique et l'annonce de ce qui sera sa vision de l'Europe. Aron pense toujours le tableau européen en général, même s'il insiste sur les relations franco-allemandes. Alors j'en viens à mon deuxième point. Il me semble que c'est sur le terrain de l'analyse des relations qu'entretiennent morale et politique dans le combat commun qui oppose finalement Aron et la revue Esprit que se marque, je dirais, l'écart qui existe entre les deux. Je n'ai évidemment pas le temps de parcourir ici les différentes étapes de ce combat, mais je voudrais plutôt montrer la manière dont ces positions traversent, me semble-t-il, jusqu'à aujourd'hui le débat intellectuel, et donc il était tout à fait normal de s'intéresser à 1932 en 2023. Dès le début, Aron distingue morale et politique. Pas plus que la politique ne saurait prétendre à une justification scientifique, elle ne peut trouver de légitimation dans une position qui se voudrait d'abord purement morale. Et les lettres d'Allemagne sont, de ce point de vue, explicites. Tout d'abord, Aron, mais là encore je passerai très vite, Aron va critiquer ce qu'on appelle à l'époque la thèse Bloch-Renouvin, à savoir l'idée qu'il y aurait une responsabilité morale de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Et vous savez que tout le débat se focalise à l'époque sur le problème des réparations, hein, de savoir si l'Allemagne doit continuer à payer ou pas. Et finalement, la thèse d'Aron, pour la résumer d'un mot, c'est de dire que non, l'Allemagne doit arrêter de payer, d'une part parce qu'il n'y a pas de responsabilité morale à cette guerre, mais ensuite que le paiement des réparations ne peut qu'entraîner l'Allemagne à la guerre. Alors, ça ne signifie pas que la morale soit absente de la politique. La référence aux valeurs qui la conduisent, la nécessité de juger finalement des moyens d'action face à une situation en fonction d'un objectif souhaitable et l'évaluation de celui-ci, le refus de la violence qui va caractériser l'œuvre d'Aron jusqu'à la fin, sont donc des éléments de sa pensée dès l'année 1932. Je crois qu'on gagnerait à creuser finalement ce qui distingue ces deux conceptions, celle d'Aron et celle des collaborateurs d'esprit, et je tracerai là une certaine continuité, je dirais, des débuts de la revue, peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Il faudra qu'on en parle peut-être dans une autre soirée. Ce qui distingue donc ces deux conceptions des rapports entre morale et politique, elle explique, je crois, différents moments qui sont des moments, je ne dirais pas de confrontation ou de dialogue, mais en tout cas de différenciation. Le premier, ce sont les analyses consacrées au totalitarisme dans les années 50, et notamment la dénonciation, évidemment, de la politique soviétique. Ce qui est très frappant dans l'analyse aronienne, et encore une fois, je vais au grand galop, c'est le fait que cette description politique n'est jamais héroïsée. Et d'une certaine façon, dans son analyse politique, il n'y a pas l'importance de ces figures que la revue Esprit, elle, va construire. Même chose sur la question coloniale. Là encore, je vais très vite. Vous savez que Aron, dès 1957, et c'est le premier ou l'un des premiers, dans la tragédie algérienne, se prononce pour l'indépendance de l'Algérie, mais il ne le fait pas du tout pour des questions morales. Il tire des conséquences finalement de la démographie, de la situation économique, tout en disant que le système politique n'est plus viable. Alors je conclurai en disant que je crois que nous gagnerions beaucoup en compréhension de ce qui se joue en filigrane des débats aujourd'hui, si nous poursuivions donc ce que je n'ai absolument pas eu le temps de faire ici, la comparaison entre la ligne éditoriale d'Esprit et les positions aroniennes en matière de morale et de politique. Comme en témoigne l'ensemble des numéros donc, qui courent sur ces 90 années, il y a dans la revue, dans la ligne éditoriale d'Esprit, la conviction que les valeurs sont premières pour juger d'une politique et qu'il en va de la responsabilité des intellectuels de le rappeler inlassablement. Le débat, me semble-t-il, n'est pas encore achevé entre les porteurs d'un humanisme de l'esprit et les partisans d'un pragmatisme rationnel sans doute plus modeste. Un dernier point pourtant, qui là serait un point de convergence. Ni Mounier ni Aron n'ont peut-être eu réellement des disciples. Le premier parce qu'il disparut rapidement, le second parce qu'il n'en souhaitait pas, aimant les esprits libres. Pourtant, l'un et l'autre, je crois, ont créé un espace de discussion. Vous savez que Aron a participé à la fondation des temps modernes, mais que surtout en 1978, il a créé la revue Commentaire. Donc il a aussi été un homme de revue. Donc, chacun a créé un espace de discussion propice à l'échange des idées qui constituait à leurs yeux, je crois, l'essence du débat intellectuel. Est-ce qu'on peut le résumer sous ce thème un peu éculé, peut-être, de l'engagement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet engagement est ce qui nous porte aujourd'hui, en tout cas à condition de considérer que celui-ci a pour vocation de cultiver la liberté de l'esprit. Je vous remercie, Olivier. Je te passe la parole.